Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Good morning. How are you today?
Spotzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 68, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui est un grand jour car je fais enfin un épisode avec mon pote Mathieu Bieloff. Et comme vous le savez peut-être, la vie est parfois faite de hauts, de bas, de multiples péripéties et de diverses aventures. Et que parfois la vie elle-même ne tient à quasiment rien et peut-être même tient parfois à simplement monter sur un vélo. Eh bien, c'est exactement l'histoire que Mathieu va nous raconter aujourd'hui. Il va nous parler de ses diverses péripéties, mais également nous allons parler VTT, gravel, cyclocross, fixie et montage de roues artisanales. Sans plus attendre, donc, Mathieu Bieloff.
Allô.
Allô, monsieur Bieloff, bonjour.
Bonjour, monsieur Richard Delhomme.
Ça va ?
Ça va très bien.
Bon. Bah, je devrais dire, est-ce que ça va depuis mardi? Parce que finalement, on est jeudi, on a roulé mardi, donc il s'est pas passé beaucoup de choses entre-temps. Sauf peut-être, va savoir.
Non, ça va très bien, ouais. Depuis la dernière sortie.
Ouais. Bon, c'est la forme quand même, malgré tes aléas de travail du matin, comme tu me disais tout à l'heure.
Ouais, c'est la forme.
Je sais que je vais aller
rouler cet après-midi, donc
ouais.
Ça va.
Ouais, bah, et heureusement, t'es en télétravail parce que imagine tous ces aléas en face. Peut-être même que déjà en face à face, ça se passerait pas ainsi. Le télétravail, c'est super, mais ça a amené des comportements qui manquent beaucoup de courage. J'ai l'impression, d'après ce que j'ai entendu, et les gens se permettent des trucs et de dire des choses qu'ils ne feraient pas en face à face. C'est un peu le contre-coup.
Ouais, peut-être pour moi. Là, dans mon cas, non, ça n'a rien à voir.
Ah, bon, bah alors, ça va.
Non, c'est pas ça. C'est juste la SNCF et puis ses chefs qui ont besoin de justifier leur poste. C'est un peu compliqué, quoi.
Voilà. Bon, bah, on va pouvoir taper sur la SNCF, alors. On va pouvoir demander... Alors, ouais, on mettra pourquoi il y a des petits chefs et puis pourquoi il n'y a pas assez de places vélo dans les TER et pourquoi on peut de moins en moins emmener un vélo dans un TGV. Voilà, on aura ce débat un autre jour. J'allais dire, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu? Mais là, bah, manifestement, tu travailles à la SNCF. Comme je te connais bien, malgré tout, et bah, je vais pas te demander de te présenter, je vais faire un résumé rapide. Et tu me diras si j'ai bon ou pas et si j'ai bien retenu la leçon. Tu t'appelles Mathieu Bieloff, tu travailles à la SNCF, tu as 38 ans, tu es marié, tu as deux enfants adorables. Tu fais du VTT, du cyclocross, du gravel depuis peu avec un infâme personnage dont je tairai l'identité. et t'as roulé avec lui mardi.
Exactement,
ouais, on a bien rigolé d'ailleurs. Depuis peu, tu as monté ta propre structure de roues artisanales. Tu t'es émancipé d'une autre boîte avec laquelle tu bossais parallèlement à la SNCF. Et tu t'es donc émancipé pour monter ta propre structure et tu vas nous parler de tout ça. Est-ce que j'ai bon ? Est-ce que je te connais bien en fait ?
Ouais, c'est ça. C'est bon, tu peux dire que tu me connais bien.
Voilà, tu fais 1m65, t'es gros comme, comme un sandwich SNCF. Ah bah tiens, voilà, ça fonctionne finalement. tu grimpes comme un avion, t'es bardé de tatouages pour une raison ou pour une autre. Et puis voilà, est-ce que c'est bon tout ça ?
Ouais, c'est ça.
T'as vu un petit peu ?
C'est ça.
Quand tu me parles, je t'écoute. T'y crois, toi ?
Ouais, bah, je me demande comment tu fais, parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup.
Ouais, ça, non, ça par contre, c'est vrai, mais j'ai l'habitude. C'est l'habitude bon, parce va. Que étant aussi en bon lien avec avec Frédéric Bernard, je sais ce que c'est que d'écouter quelqu'un qui a atteint de diarrhée verbale. Donc
je connaissais pas l'expression, c'est ouais, OK.
Bah voilà, tu vois. Je te la ressortirai la semaine prochaine on ira rouler. Bon, on doit parler de plein de choses, de vélo, de gravel, de roues artisanales. On va également te parler de fixie parce que t'es en train d'arranger mon route en fixie et t'as rencontré plein de soucis techniques, donc j'aimerais bien que tu m'en dises un petit peu plus, même si tu m'as dit l'essentiel mardi, mais volontairement je t'ai pas posé de questions trop parce que je voulais garder ça pour l'épisode, donc j'en ai malgré tout quelques-unes. Est-ce que tu peux me raconter comment tu t'es mis au vélo?
Alors, pour faire simple, j'étais dans une période où il fallait que je me change des idées. Du coup, je m'ennuyais. Mon père, qui lui est cycliste depuis plus longtemps que je suis né, avait quelques vélos qui traînaient au garage. Du coup, j'étais chez eux où je m'étais mis au vert. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais faire un petit coup de vélo. Je suis allé rouler. Je me suis dit, c'est pas mal le vélo, en fait, c'est sympa. Plus jeune, j'avais fait du motocross et du coup, je me suis dit qu'avec un peu d'entraînement, le VTT, ça pouvait être encore plus sympa. Le dimanche suivant, je pars rouler avec mon père et un club à côté de chez lui en Normandie. Et là, mon père me dit, dis donc, pour quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis une bonne quinzaine d'années, t'as un bon coup de pédale. Et là, j'ai eu comme un déclic où je me suis dit, tiens, je vais faire du vélo. Et du coup, depuis maintenant 9 ans, ça rythme mon quotidien.
On en avait parlé, on ne va pas rentrer dans les détails trop intensément, mais quand on avait évoqué la possibilité de faire un épisode ensemble, je t'avais dit, si tu veux, on n'en parle pas, et tu m'avais dit, non, c'est pas grave, et ça fait partie de mon identité, ça fait même partie de ma thérapie. Et ça fera un bon clin d'œil à la médecin, à la doctoresse qui te suivait. Pourquoi t'as pas fait de sport pendant 15 ans?
Ah, parce que mon sport, c'était le lever de coude. Ah. J'étais punk avec le leitmotiv, le nihilisme et une grande addiction pour l'alcool et les drogues. Qui fait que c'était pas vraiment compatible avec le sport, on va dire. Et ouais, c'était un mode de vie que je regrette pas. Hein. Je me suis beaucoup amusé, tout ça, mais il y a un moment dans ma vie où je passais plus de temps à l'hôpital qu'à faire la fête sur la fin. Et pareil, c'était le premier déclic où, pourtant, après 4 ans de galère à essayer d'arrêter l'alcool, J'ai eu un déclic et du jour au lendemain, un truc assez inexplicable, en me réveillant à l'hôpital, je me suis dit mais c'est pas ça la vie. Et j'ai jamais, non seulement bu une goutte d'alcool depuis, c'était le 10 février 2010, mais j'ai jamais non plus envie de consommer de l'alcool. Donc du coup forcément, rupture avec les personnes avec qui, les potes de l'époque, tout ça. Et qui explique pourquoi je m'ennuyais et pourquoi aussi j'étais parti à la campagne chez mes parents pour être un peu plus tranquille, un peu plus zen. Et du coup, il fallait bien que je m'occupe. Donc, je suis grimpé sur une bicyclette.
Ce qui me fait rire, c'est quand tu me dis ton père a trouvé que tu avais un bon coup de pédale malgré toutes ces années. Ça me fait rire quand même. Ça me fait rire, pas méchamment, hein. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi se mettre les cuisses par terre, mais c'est quand même assez cocasse quand même qu'après toutes ces années d'autodestruction, de bagarres, etc., tu montes sur un vélo et finalement t'es loin d'être pourri. C'est quand même beau.
Alors après je roulais pas avec des cadors, mais un peu comme tout ce que je fais en général, j'ai toujours tendance à le faire à fond. Toujours à mon humble niveau, mais je ne sais pas faire les choses à moitié. Je crois que c'est pas possible pour moi. Du coup, forcément, la sortie, il y avait d'autres jeunes. Moi, j'avais qu'une idée en tête, je ne savais pas. Hein. Pour moi, c'était pas une question de niveau, d'être le plus fort ou quoi. Mais Moi, j'étais sur un vélo, fallait que je m'amuse. Bah, pour s'amuser, je voulais être devant, quoi. Mmh. Forcément. Enfin, je suis rentré, on a dû faire 30 bornes. J'ai dû mettre 15 jours pour m'en remettre. Hein.
Pourquoi? Mais...
Ah, parce que j'étais rincé. J'avais plus de jambes.
Ah, mais n'empêche que ça a été un déclic.
Ah bah oui, par contre, là, j'ai pris mon pied et après, mmh. bah, à partir de cette sortie-là, après, au début, je roulais que le dimanche matin, parce que j'habitais en banlieue parisienne, donc je savais même pas qu'on pouvait faire du VTT là-bas. Donc je revenais en Normandie tous les dimanches pour pouvoir faire ma petite sortie hebdomadaire, mmh. jusqu'au jour où, sur un forum, sur Internet, j'ai appris que de Asnières jusqu'au parc de Saint-Cloud, c'était pas si loin que ça, et que du parc de Saint-Cloud, il y avait de quoi s'amuser en VTT, quoi.
Et voilà, la pente fatale.
Et ouais.
Ah ouais, bah, puis, ça, c'était un jeu de mots, la pente fatale en VTT. T'imagines?
Ouais.
Ouais. Je crois que c'est la première fois que j'arrive pas à te faire rire. C'est bête, hein?
Si, je rigole.
Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu me l'as dit tout à l'heure, t'es de mauvaise humeur. T'es un peu ronchon. Donc,
non, ça va, maintenant que j'ai entendu ta voix, ça va beaucoup mieux.
Ah ouais, d'accord. Ouais, t'es pas le premier à me dire ça aujourd'hui. C'est marrant.
Ah, c'est bien.
Bon, on va clore rapidement. Juste un détail. Tu m'as dit, t'as abusé. Est-ce que pour donner une idée de du niveau d'intensité de ce mode de vie, tu peux me rappeler combien de fois t'as frôlé la mort?
Aïe. Ouais. Combien de fois?
T'as assez de doigts ou ça va aller ou je peux t'aider avec les miens?
Bah, si on cumule les accidents de voiture. J'ai fait aussi cette pancréatite aiguë. Pour ceux qui connaissent, c'est assez violent. Mmh. Donc à chaque fois avec hospitalisation d'une dizaine de jours. Donc qui dit hospitalisation dit sevrage forcé forcément. J'ai fait 2 arrêts respiratoires et puis quelques overdoses. Mais bon, ça c'est difficile. Vu que moi je mélangeais tout, c'est difficile de savoir pourquoi je me retrouvais dans des états pareils, quoi. Plus les nombreux comas éthyliques, tout ça. Enfin, mmh. C'était violent. Avec le recul, très violent.
Quand tu me dis que tu regrettes pas, ça on en parle, bon, on en parle à vélo de temps en temps, quand tu me dis que tu regrettes pas, ça veut dire que c'est un passage indispensable pour être la personne que tu es aujourd'hui et vivre, bah, entre guillemets, le bonheur que tu vis en famille, parce que tu as 2 enfants super cool. Et voilà, mais est-ce que c'était un passage pour être celui que tu es aujourd'hui et vraiment vivre pleinement aujourd'hui ou c'est autre chose?
Bah, je pense qu'au fond, j'ai pas changé. J'étais jeune, après, il y avait beaucoup le côté musique, les concerts, les potes, tout ça. Donc, on va dire que. Moi, le côté alcool, drogue, tout ça, c'est pareil. Je suis allé à fond dans ce truc qui chez les punks, qui est très, très classique. Hein. Mais bon, à différents niveaux. Moi, comme pour tout ce que je fais, j'ai pas su rester niveau festif. Il a fallu que ce soit toujours plus.
Ouais. Et pourquoi t'as vraiment plus choisi le VTT plutôt que la route? Par rapport au motocross?
Ouais, par rapport à l'aspect fun. En fait, à la base, pour moi, si je voulais me marrer, il fallait que ce soit du VTT. Mm. Je connaissais que 2 disciplines à vélo. On va dire, si, il y avait le BMX quand même à côté. J'avais testé vite fait, mais quand il n'y a pas de piste, tout ça. Et puis moi, à l'époque, quand j'ai commencé ça, être dans un club, c'était même pas pensable.
Pourquoi?
Parce que tout ce qui était organisation, tout ça, pour moi, c'était quelque chose d'inconcevable. Quoi. Il fallait que ce soit forcément...
Libre.
Que je sois, libre. Et du coup, ouais, j'ai jamais réfléchi à ça. En fait, c'était pour que ce soit marrant, il fallait que ce soit du tout-terrain, qu'il y ait des bosses, des descentes... Et très rapidement, on m'avait dit, ouais, essaye la route, tu vas voir. J'ai toujours dit, j'ai mis plus de 2 ans à me mettre à la route.
Pourtant, maintenant, t'en fais avec assiduité quand même. Tu mélanges tout, donc.
Et c'est même ce que je fais le plus dans l'année, quoi.
Ouais. Bah, oui, c'est ce que tu me disais, c'est que le VTT, bah, on habite à 20 km l'un de l'autre. On est en Eure-et-Loire. Bon, c'est pas une région magique pour le VTT. Les descentes, elles font 75 mètres.
Ouais.
Ah, tu m'as fait rire mardi quand tu m'as parlé du mec que t'as croisé avec son équipement d'enduro.
Ah oui, ouais, bah, j'aimerais bien savoir où il va parce que franchement ça m'intrigue. Faut que je le recroise.
Comment tu peux me raconter comment t'as évolué dans le matériel. Tu m'as parlé de hier, mardi on parlait de taille de vélo, de roues en 26, après t'es passé au 29. Tu m'avais parlé également d'un, je sais plus si c'était un look ou quoi, super léger, et finalement que t'avais collecté les pièces les plus légères petit à petit comme un écureuil, et que finalement t'es revenu à un vélo un poil plus lourd. Tu peux me raconter tout ça?
Ouais. Alors,
ouais.
En gros.
Bah voilà.
Ouais, mais je vois très bien ce qu'il faut que je te raconte. En gros, bah, j'ai commencé avec un 26 pouces carbone, un look 986, sur lequel j'ai dépensé des milliers d'euros pour le faire descendre sous les 8 kilos. Mmh. Et c'était le tout début des 29 pouces. Enfin, c'est... À l'époque, je roulais avec des gars qui marchaient fort, ils avaient tous des 29 pouces. Du coup, en fait... J'ai dépensé des milliers d'euros pour changer de vélo quasiment aussitôt après avoir atteint cette fameuse barre et pour avoir un 29 pouces. Et du coup, ce 29 pouces, il était déjà un pote qui avait été vice-champion de France UFOLEP. Donc du coup, le vélo était déjà parfait, j'ai rien touché dessus. Que j'ai gardé 4 ans. Que j'ai revendu ensuite pour avoir un Canon Dell. Et sur lequel j'étais pas très bien et sur lequel je pouvais pas trop changer de pièce parce que c'est des pièces propriétaires. Du coup, c'était un peu compliqué. Donc, je suis resté à un vélo qui faisait à peu près 9,2 kg, je crois, si mes souvenirs sont bons. Sauf que j'avais beaucoup de mal à le piloter. Il était très, très vif, très, très bon en relance, mais dans le technique, j'étais vraiment pas bien dessus. Et, la suite, c'est que j'avais un pote qui était gérant d'un magasin BMC et qui pouvait me faire un super prix. Du coup, j'ai dit, bon, le Cannondale, il est bien, mais ça me convenait pas. Du coup, j'ai changé pour un BMC. Et là, en faisant l'étude pour la taille du cadre, mon pote me dit, mais toi, il te faut un S. Je fais, non, j'ai toujours eu des M. Il me faut, c'est M. Il fait, non, je t'assure, c'est S. De toute façon, on commande le S. Si ça va pas, on commandera le M. Et là, c'était après, ça devait faire 5 ans que je faisais du vélo. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, j'utilisais depuis le début pas les bonnes tailles de vélo. Donc, c'était génial de s'apercevoir qu'en fait, un 29 pouvait être encore plus joueur que ce que c'était déjà. Mmh. Et surtout, avec ce fameux BMC qui faisait 9,7 kg, je crois, je me suis aperçu que le poids, c'était absolument pas... Enfin, pas absolument, mais que c'était pas si important que ça. Parce que j'ai jamais, à part les roues, qui là, pour le coup, c'est vraiment super important sur un vélo, j'ai jamais rien changé. Au final, la seule chose que j'ai changé à ce moment-là, vu que j'étais bien sur le vélo, c'est l'entraînement. Je me suis même entraîné beaucoup plus fort. Mmh. Et là, du coup, forcément, le vélo, bizarrement, roulait plus vite. Alors qu'en changeant les pièces et en gagnant du poids, ça changeait pas grand chose.
Ah bah alors ça c'est un scoop. Il t'a fallu 5 ans pour découvrir ça.
Vas-y donc. Ah mais j'ai commencé, je partais de zéro. C'est un peu comme je disais au début. Hein, quand je fais un truc, c'est à fond. J'étais dans le weight release à fond. Hmm.
Et c'est de là qu'est parti entre guillemets ton histoire d'amour avec BMC, parce que t'en as encore des BMC. En tout cas, ton gravel gravier, ton cyclo gravier, c'est un BMC encore.
Ouais, avant j'avais VTT, route et puis les deux cyclocross. Maintenant, j'ai plus que les cyclocross chez BMC. Hmm. Mais mon pote t'as plus le magasin, donc forcément j'ai plus les prix.
Obligé d'acheter ton propre matériel. Alors ça, c'est vraiment nul. Ah non, mais vraiment. Ouais. Et sur la route, tu faisais quoi? À cette époque-là.
Je faisais quoi? Comment ça?
À cette époque-là, c'était dilettante, tu faisais des courses, tu faisais quoi?
À cette époque-là, sur route, tout ce que je faisais, c'était les sorties avec les potes. Mmh. C'était que l'entraînement, en fait, sur route. Et j'ai fait aussi... Quand je me suis aperçu que, même en habitant à Nières, je pouvais rouler assez facilement à vélo, je suis arrivé dans un club à la CBB où j'ai rencontré des mecs qui sont devenus des super potes et qui m'ont poussé tout de suite à faire des trucs de malade. Genre, ça faisait 6 mois que je faisais du vélo, ils m'ont emmené sur la Valslopette, du coup. Et déjà, c'était très très dur pour moi parce que rouler beaucoup beaucoup plus fort. Sauf que je voulais pas lâcher, donc pareil, un week-end où je suis revenu démoli. Après ça, on avait fait, alors je me rappelle plus dans quel ordre, mais on avait fait l'ultra raid de la Meije et le Valois Honfleur, qui a disparu maintenant, qui a été remplacé par le Valois Cabourg, je crois, un truc comme ça.
C'est à côté, donc ça va.
Donc sur route, ouais, c'était les... Dès que j'ai commencé la route, ça devait être au bout un an et demi, 2 ans que je faisais du vélo. Mmh. Ils m'ont directement emmené sur ce 240 km le Valois-Honfleur. Et là, en fait, pour le coup, ça a été un peu une révélation. Que finalement, la route, c'était cool. Surtout quand on est avec une bande de potes et que ça rigole pendant 6-7 heures. C'est juste parfait. Mmh.
Tu me parles des potes, comment t'en es venu à connaître Philippe? Alors Philippe Trochon, épisode 12 ou 13, qui a été parmi les premiers participants à la French Divide, et t'as plein d'autres potes qui ont fait ou qui vont faire la prochaine édition. Je me souviens plus comment tu l'as connu, je pense pas que tu me l'aies raconté ça.
Alors Philippe, en fait... Il avait rencontré des gars de la CBB sur le raid des Monts d'Ardèche, je crois.
Ouais.
Et du coup, comme il était, il habitait à l'époque en Île-de-France, il avait signé à la CBB. Mmh. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'a commencé une belle amitié, parce que c'est exactement le genre de gars avec qui j'aime rouler, qui, si on se marre pas, ça ne l'intéresse pas. Et moi, ça me convient parfaitement comme philosophie.
Et en plus, il parle beaucoup.
Ah ouais, ouais.
Je me souviens, l'épisode avec lui, je lui ai demandé de se présenter. Et au bout de 20 minutes, il avait toujours pas fini.
ouais, je l'ai écouté, cet épisode.
Ouais. Pourquoi tu t'es mis au cyclocross? Simplement pour faire un truc en plus, pour la beauté de l'effort, c'était pourquoi le cross?
J'avais des potes qui en faisaient et je m'étais cassé l'épaule à l'époque, du coup je pouvais pas rouler un dimanche et je suis allé les voir. Et là clairement c'était pareil, une autre révélation où je me suis dit mais ça c'est exactement ce que j'aime. Mmh. C'est une heure, enfin même pas 50 minutes à bloc où on met un peu le cerveau de côté et puis voilà, il y a juste à se dire de toute façon faut tenir 50 minutes, c'est très technique. Même si c'est pas technique comme on pourrait le penser avec des cailloux, des descentes dans les racines ou ça après je l'ai appris petit à petit à mieux gérer les courses, à gagner à ne pas perdre de temps justement. Et ouais, c'est vraiment de toutes les disciplines vélo, c'est vraiment celle que je préfère. Maintenant, c'est pour moi ma saison, elle commence en septembre.
Ça on va en reparler juste après. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, Ellie était toute petite et Johan, qui est bien connu ici, courait à côté de la maison. Donc, j'étais allé le voir. J'avais emmené Ellie se promener. Et je me souviens avoir été estomaqué parce que tu te souviens du parcours. Il y a un passage où vous étiez obligé de monter à pied. Et de l'autre côté, sur le même versant, il y a un passage où tout le monde passait à pied. Était-elle seule à passer à vélo? Et je t'avais observé, t'arrivais décontracté, tu remontais avec de la vitesse, tu remontais un petit coup le dérailleur et tu passais sur la vitesse là où tout le monde passait à pied, même Johan. et on en a parlé il y a 3 jours quand je lui ai dit que je faisais l'épisode, et il m'a dit bah ce petit là il a la caisse, parce que cette course là il était vraiment en forme, bon certes il gagne, et il a quand même dû s'employer un tout petit peu au physique pour te lâcher, mais techniquement s'il avait été moins en forme tu gagnais, t'étais devant lui. Voilà, je t'ai perdu, ça y est. T'es en train de rougir en fait.
Ouais, exactement. Je suis ému.
Ouais.
Non, battre Johan Rigoulet, faut pas rêver.
Bah si.
Pas pour moi quoi.
Si si. Non, mais si t'en es capable, j'en suis sûr. À la patte, peut-être pas, mais à la technique, t'es meilleur que lui. Je te le dis. Et lui aussi le dit. Il me l'a dit il y a 3 jours.
Je sais pas. Si. Cette course-là, j'étais vraiment en forme. En plus, à Maintenon, c'est un circuit que j'aime beaucoup, justement parce que il est très très bien tracé, et pour le cyclocross, c'est juste parfait. Mm. Et ce fameux talus, ouais, c'était difficile de prendre la vitesse, et en fait, il fallait prendre sa vitesse dans un virage qui était légèrement glissant, et pour vraiment arriver pleine balle en bas de ce talus, quoi. Et ouais. Par contre, le plus dur, c'est qu'en fait, arrivé en haut, j'avais plus de vitesse et il fallait que je reste avec le même braquet pour me relancer. C'était assez compliqué. Donc, j'étais pas persuadé que ce soit la meilleure façon de passer pour aller vite. Mais bon, c'était très amusant de réussir à monter cet énorme talus en restant sur le vélo. Du coup, bah, j'ai fait toute la course comme ça.
Ouais.
Il y a peut-être une ou deux fois où je m'étais raté, où j'avais dû sauter du vélo sur le haut, quoi. Mais ouais, c'est une course que je me souviendrai longtemps, parce que j'étais assez fier de tenir Johan pendant quelques tours, au moins de le garder en ligne de mire.
Ouais, ouais, non, mais c'était serré, hein. C'était clair. Moi, tu sais, ce petit talus qui fait 7 mètres, hein, à passer, c'est très court, mais c'est extrêmement pentu. Je le regarde régulièrement avec admiration, parce que pile en face sur le parking, il y a un kiosque à pizza. Et quand je vais chercher mes pizzas. Ce qui explique que je suis un peu collé, parce que le confinement m'a vraiment fait du mal à cause de ça, justement à cause des pizzas. Et souvent je le regarde et je tourne le dos au kiosque, et le mec à l'intérieur qui attend que je file ma carte pour payer, il me regarde et je dis, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il regarde cet abruti? Parce qu'il y a les voitures qui passent, on voit le petit talus à 50 mètres, et je reste comme ça 30 secondes à repenser à ce moment où je te voyais passer sur le vélo et me dire, mais comment je pourrais faire ça? Et j'imagine que le mec se dit, mais qui c'est cet abruti? C'est pas possible qu'il prenne ses pizzas et qu'il se barre. C'est pas possible. Je peux pas avoir des clients aussi débiles. Et puis après, je prends mes pizzas et je rentre. Et puis voilà. Et puis après, je vais rouler avec toi et je regrette d'avoir mangé autant et de pas passer les talus avec toi. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça va mieux là. Ça va mieux.
Pourtant, moi, tu vois, j'étais persuadé justement que ça venait des pizzas quand je suis en forme.
Ah ouais? Ah, mais ça donne de la force, la pizza. Mais après un certain seuil, ça l'enlève.
Ah, il faut trouver la bonne dose.
Ouais, bah une deux par mois, je pense que c'est la bonne dose. Deux par semaine, je peux t'assurer que c'est beaucoup trop. Comme le McDo, pareil. Et quand tu fais pizza 2 fois et McDo 2 fois, t'as intérêt à bien gonfler tes pneus quand même. Hein. Là, rouler à 1,5, c'est fini. Hein. Tu peux oublier, sinon tu roules sur la jante. Donc... Et comment tu t'es... Alors du coup, oui, on va finir sur le cyclocross cet hiver. Tu vas faire ta première saison en Coupe de France, c'est ça?
Alors du coup, ça risque d'être reporté à l'année prochaine.
Pourquoi?
Parce que avec le confinement, le Covid, tout ça, avec le club, le Vélo Team 78 où je suis maintenant, on n'a pas repris d'affiliation FFC pour le moment.
Ah oui.
Donc juste, on serait que 2 coureurs. Donc reprendre une affiliation pour les quelques mois de septembre à décembre et devoir repayer en janvier, c'est un peu compliqué pour cette saison. Oui. Donc du coup, ça sera certainement 2021-2022.
Ouais. Bon, c'est dommage. Surtout que t'es en super forme.
Ouais, c'est pas grave. En plus, je change de catégorie cette année comme...
Tu passes
comme
en master, passe tu passes en tu ah oh, putain, ça fait mal ça, tu verras. Tu c'est pas encore fait? T'es encore senior là?
Je suis encore dans le déni.
Ouais, là-bas.
Je suis toujours persuadé, enfin quand on me demande quel âge j'ai, je dis toujours 26 comme ça.
Ouais. Moi, je donne mon âge mental, ça me rassure encore plus, je dis 16, c'est encore mieux.
Ouais. Mais ouais, non, bah. Faut s'y faire.
Ouais.
Après, bon, voilà, c'est ce que je dis toujours, en fait, avec mon passé, moi, j'ai jamais été aussi en forme, donc. Ça me gêne pas plus que ça. Hein.
Tu me disais aussi, l'autre fois, quand je t'ai vu. Quand on s'est eu, bah on se cherchait sur la route et je te dis ça va. Et tu me dis, mais ouais, moi ça va toujours, je suis toujours de bonne humeur, ça fait partie de l'ensemble. Maintenant, à être évidemment en meilleure forme qu'avant, mais aussi à être de bonne humeur perpétuellement, sauf ce matin.
Ouais, bon après, c'est des petits passages comme ce matin où je m'agace vite en fait, mais bon, ça passe aussi vite que c'est venu. Mais la vie est belle donc. Il n'y a pas de raison que je sois de mauvaise humeur.
Bah oui. Quand même. Vas-y.
Non, vas-y, je t'en prie.
Non, t'allais dire un truc intéressant et pour ça, il ne faut pas compter sur moi. Donc, vas-y.
Même avec les deux enfants, le boulot, tout ça, j'arrive à rouler à peu près quand je veux. Donc, je ne veux pas me plaindre. Puis le vélo, ça aide à rester de bonne humeur.
Évidemment, quand même. Bon, du coup, comment tu t'es mis au gravel? Comment et pourquoi?
Le gravel. Est-ce que je me suis vraiment mis au gravel?
Vu ce qu'on a fait mardi, ouais. Là, la transition est faite. Hein.
Ouais, mais en fait, c'est pour moi, si je donnais une définition du gravel, pour moi, ça serait tu pars toute la journée, en gros. Quand on fait les sorties, comme on fait là, 3 heures, même 4 heures, j'ai l'impression de prendre le cyclocross pour aller faire une balade dans les chemins. Donc, après, oui, c'est... En fait, gravel, pour moi, c'est plus... je pense tout de suite au bivouac, à des épreuves un peu plus longues. Mais bon, hein, on est tous d'accord. La définition du gravel, elle n'est pas...
Ah bah elle est pas fixée dans la pierre. Hein.
Elle est pas fixée. Ouais.
Chacun fait bien comme il veut, mais en tout cas, on se marre bien. Et comme on disait mardi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on a exploré vraiment. On est allé un poil plus loin que ce que l'on fait habituellement. Et à 20 km de la maison, on a retrouvé, enfin un petit peu plus quand même là cette fois, 20-30, on a retrouvé plein de nouveaux chemins. Alors que la route, tu sais, la descente qu'on a descendue. Et remonter instantanément pour se dire, tiens, on est au croisement de Villemeux. Cette route-là, je l'ai prise des dizaines de fois. Et je savais pas que si je prenais à droite avec des crampons, j'allais me taper ce petit secteur pentu avec les cailloux. Qu'en haut, il y avait ce petit coin dans la forêt avec des bosses et des virages en dévers. Jamais j'aurais découvert ça. Bah, évidemment, à moins d'y aller. Mais c'est ça qui est génial, c'est que... On a beau être dans une région qui est pas super adaptée au tout terrain, n'empêche qu'on s'éclate quand même carrément. En tout cas, mardi, on s'est vraiment marré.
Ah bah ouais. Bah c'est,
voilà. C'est bah ouais.
C'est vrai que pour ça, du coup, c'est à la base quand j'ai pris un cyclocross c'était le début de vraiment, enfin l'explosion du gravel où je me suis dit tiens, je vais tester. J'ai pris un cyclocross et c'est vrai qu'au début, je prenais un peu les mêmes chemins que je prenais avec le VTT. Pour ceux qui connaissent, dans notre coin, j'allais à Gambais, en fait. Mais bah, du coup, c'est vrai qu'avec toi, je reste pas dans les chemins que je connais. Quoi. La preuve, c'est qu'on s'est perdu. On a même fait des boucles. On est revenu sur des routes. On s'est dit, mais on est déjà passé là tout à l'heure.
Non, mais ça, c'est parce que je suis nul en orientation. Ça, c'est un autre problème.
Oui, bah, moi aussi, donc comme ça. Mais du coup, oui, c'est vrai que... Vu comme ça, ouais, c'est comme ça que je me suis mis au gravel, quoi.
Est-ce que si on faisait le même parcours que mardi et qu'on prenait nos VTT, est-ce que tu crois qu'on se marrerait autant sur ces chemins-là ou est-ce qu'on trouverait pas ça un petit peu laborieux quand même?
Non, je pense que pour moi ça aurait été pareil parce que t'as remarqué que s'il y a pas de boss, s'il y a pas constamment en train d'essayer de faire des roues arrière, trouver le moindre petit truc à sauter et puis après de toute façon il y a les discussions, les rigolades donc je trouve toujours le moyen.
Attends, on a été coupé, tu trouves toujours moyen de quoi?
De m'amuser quand je suis sur un vélo.
Ouais. Bah, tu me disais quand même que ici, dans le coin, tu préférais quand même prendre le cyclo-cross, le cyclo-gravier, plutôt que le VTT, parce que justement, c'est plus roulant. Et bah ça, on fait quand même un petit peu plus de kilomètres. Donc, et puis des endroits où on peut sauter et faire les idiots et prendre des petites descentes, bah, il n'y en a finalement pas tant que ça. Donc, sur du roulant, c'est aussi agréable d'avoir des vélos qui roulent bien. En tout cas, sur lesquels on peut faire des bornes. Et puis de rouler à une allure correcte. Parce qu'à VTT, on roule quand même un petit peu moins vite.
Bah, c'est vrai que depuis qu'on roule ensemble, du coup, systématiquement, c'est gravel. Et bah, j'ai redécouvert les chemins parce que tout seul à VTT, bah, c'est très, très ennuyeux. Et du coup, là, avec les gravel, on roule beaucoup plus vite. Et c'est, du coup, dans le coin, c'est vrai que c'est marrant.
Alors, quand en août, on va aller faire du VTT ensemble, par contre. Mais, mais pas avant août.
J'avais dit que c'était fini le VTT ici. Depuis mon séjour dans les Vosges, là.
Mais oui, tu me l'as pas raconté, ça mardi. Tu m'as juste dit en début de semaine, j'ai pris une énorme boîte, j'ai le bras immobilisé, j'ai cru que je me l'étais cassé. Qu'est-ce que t'as... Alors, désolé pour la vulgarité, mais qu'est-ce que t'as foutu encore?
Alors, j'étais chez un pote dans les Vosges, chez mon pote Oli. C'est un séjour qu'on devait faire depuis un moment. À chaque fois, il me dit, faut que tu viennes dans les Vosges. Et du coup, là, il a dit, 14 juillet, je serai dans les Vosges, faut que tu viennes. Je fais OK, deux autres potes sont venus. Donc, autant te dire que c'était 4 jours de régal. En plus, j'avais un vélo, un VTT que j'avais depuis septembre, que j'avais pas vraiment encore testé. Et bah là, c'était parfait, quoi.
C'est
un tout suspendu avec
un trek calibre top fuel, ouais, voilà.
Ouais. Avec la tige de selle télescopique et tout, du coup, c'était vraiment l'endroit idéal pour tester le vélo. Et bah, je me suis régalé. Dans les descentes, forcément, on lâche de plus en plus, même si je suis pas habitué aux descentes comme ça, assez cassantes, pleines de cailloux, les petits singles avec des ravins sur les côtés. Je me suis de plus en plus lâché et ben, normalement, ce qui était l'avant-dernier jour, mais du coup, c'était le dernier jour pour moi, dans la toute dernière descente, je descendais pleine balle et j'ai vu un moment, c'était un single avec à gauche un... Donc j'étais dans le single pleine balle et je vois qu'à un moment, le single, il s'écroulait un petit peu sur la gauche. En fait, j'étais focalisé sur ce passage en me disant, faut pas que ma roue avant aille trop sur l'extérieur, sinon ça va pas le faire. Et en regardant bêtement là où j'allais mettre ma roue avant, j'ai pas vu qu'il y avait un arbre tombé sur le bas-côté avec une branche qui revenait sur le milieu du single. Et en fait, je me suis pris la branche en plein dans le bras, ce qui fait que j'ai voltigé dans le petit ravin là sur la gauche, et je me suis repris le vélo sur la tête. Et en fait, en le bloquant avec mon bras, je me suis fait je ne sais pas quoi, et ce qui fait que bah, jusqu'au lendemain, je pouvais plus déplier mon bras entièrement. Quoi.
Ah bah,
donc fin du stage dans les Vosges.
Voilà, fin. Ouais, ça, clap de fin.
Finalement, plus de peur que de mal, mais.
Bah, t'as quand même cassé ta tige télescopique. Tu m'as dit.
Ça, la tige télescopique. Ah non, mais de toute façon, tous les jours, il m'est arrivé un truc. Bah, c'est le problème d'être parti là-bas avec un vélo pas révisé. Et du coup, ouais, tous les jours, il m'est arrivé quelque chose. Et c'était la veille où, dans la dernière descente, en fait, en baissant ma tige de selle télescopique, un truc qui s'est cassé dedans. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas réparé. Et la selle remontait toute seule. Alors ça, déjà, avant la chute, le matin, c'était un peu le branle-bas de combat pour trouver une tige de selle. Un lundi 13 juillet, autant dire que c'était pas évident. Tous les magasins de vélo étaient fermés, au moins le lundi matin. Et la seule tige de selle en 31,8 qu'on a trouvée, c'était dans un décathlon à Épinal. Donc on a fait quasiment 2 heures aller-retour pour aller chercher ma tige de selle à 10 euros, qui a très bien fait l'affaire. Elle a pas évité la chute, mais bon, au moins, elle m'a permis de monter en haut des petites montagnes.
Ouais. Et ta tendinite, parce que du coup, ça a changé un petit peu ta position malgré tout. Tu me disais mardi, ça en est où ta petite tendinite au genou droit?
C'est mollet droit, c'est derrière le genou, en fait, en haut du mollet. Bah, je sais pas. On verra cet après-midi.
Ouais.
Mardi, c'était pas top. Ça me gênait pas mal. Mais bon, après, c'est quasiment depuis le début que je fais du vélo. En fait, je m'étais blessé au mollet au tout début que j'ai commencé la route. Donc, ça fait 7 ans que je roule avec une tendinite, avec des tissus résiduels. Je sais plus comment ils appellent ça. Enfin, en gros, j'ai une cicatrice dans le mollet qui fait que ça me gêne en permanence, quoi.
D'accord.
Mais je me focalise pas sur les blessures. C'est une fois sur le vélo, en fait, j'y pense plus trop, quoi. Ça reste une gêne. Mais...
Alors, tu connais l'expression c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Comment tu expliques que tu répares, tu montes des vélos parce que tu as monté ta structure parallèlement qui s'appelle la cyclerie Bielhoff. Comment tu expliques, par quel miracle expliques-tu que tu t'occupes des vélos des autres, mais que tu réussis à partir avec un vélo non révisé? Est-ce que tu as une théorie sur le sujet?
Tout simplement que quand j'ai du temps libre pour moi, je roule. Et le reste du temps, c'est-à-dire le soir, les week-ends, tout ça, c'est je m'occupe de monter des roues et des vélos pour les autres. Donc en fait, j'ai plus le temps de faire la mécanique sur les miens.
Bah voilà.
Là, la seule mécanique que j'ai fait, c'est sur mes cyclocross pour les préparer pour septembre. Et j'ai toujours pas fini. J'ai l'impression que ça fait 2 mois que je suis dessus et ça avance pas.
Pourtant, t'as changé ton guidon, quand même.
Ouais. Bah, parce qu'il faut bien que je teste quand même avant les premières courses. Donc,
ouais.
Il a fallu trouver le temps, quoi.
T'en es tellement content de ce guidon. Tu m'en as parlé pendant 3 heures mardi, hein, ce nouveau guidon, quand même. Je sais pas si tu t'en rends compte.
Je m'en rends pas compte. Non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il est génial.
Pour un truc chinois que t'as acheté 40 euros, c'est quand même drôlement bien.
Exactement.
Voilà. Bon, en parlant de la Chine, comment t'en es venu à monter des roues artisanales? Comment t'en es venu à monter tes propres roues?
Alors, ça a commencé en achetant une paire de roues artisanales chez Cerben. Et en discutant avec Jean-Yves, je me suis aperçu que finalement, ça avait pas l'air. Dans mon imaginaire, je fais de la mécanique depuis toujours. Mais je sais pas pourquoi, pour moi, les roues, c'était quelque chose de très compliqué. Et en discutant avec lui, je me suis dit, finalement, ça peut se faire. Et du coup, il m'a dit, essaye. Et il m'a donné. Une paire de cercles, les rayons, une paire de moyeux, il m'a dit, vas-y, entraîne-toi. Et donc, ces roues, je les ai montées, démontées, remontées, j'ai fait tous les tests possibles, en m'apercevant que, au début, je mettais très longtemps pour que ce soit absolument parfait, que ce soit dans la tension, le voile, le saut, enfin, tout ça. Mmh. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, donc, du coup, je mettais beaucoup de temps, mais je me suis aperçu que c'était pas si compliqué que ça. Et j'ai commencé à monter des paires pour les autres. On est arrivé au début du cyclocross. Mon père s'était acheté un nouveau vélo et il m'a dit, il faut que tu me fasses une paire de roues. Donc ça, c'était la première paire de roues que j'ai montée pour quelqu'un d'autre. Et lui, il m'a dit, elles sont super. Et après ça, j'ai eu un autre copain sur route pour qui j'ai monté une paire de roues. Et ainsi de suite, et ça s'est fait petit à petit, quoi. Jusqu'au jour où je prenais tout le matériel avec Jean-Yves, et où on s'est dit, parce qu'il y a des aspects un peu compliqués à le faire ensemble. Jusqu'au jour où on s'est dit, maintenant, il me dit, tu sais monter tes roues, t'en connais un bon rayon, on peut faire ça.
J'aurais pu la faire, celle-là. Hein. Quand même. T'aurais pu me la laisser, celle-là. Quand même.
J'avoue, là, c'est du Richard tout craché.
Ouais, il y a même une petite touche, on aurait dit les blagues de mon beau-père, tu vois. Quand il me dit, allez, trinquons, je fais le train. celle-là, il me la sort depuis 10 ans, quand même. Hein. Mais là, t'en connais un rayon dans les roues. Celle-là, j'avoue, je suis un petit peu jaloux. Et je t'en veux un tout petit peu. Je pense que je vais te pousser dans le talus la semaine prochaine. Rien que par je sais pas quoi. Je trouve pas mes mots. Donc, comment t'en es venu à te dire, je vais m'émanciper de Cerben et j'ai envie de monter ma propre structure. Éventuellement avec une idée, enfin en voyant un petit peu plus loin que ça.
Pendant le confinement, télétravail, mais chômage partiel, on va dire. Et du coup, il fallait bien s'occuper le reste du temps. Parce que, le home trainer, ça va 5 minutes. Je faisais toujours des petits trous, montage, démontage pour faire des tests, tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi je fais pas ma propre boîte? En plus, j'en ai déjà parlé avec Jean-Yves. Et là, j'ai regardé sur Internet comment on créait sa boîte. Je me suis aperçu que c'était très, très simple. Et c'est parti de là. Je me suis dit, bon, si c'est simple, je le fais. Et puis voilà. Et comme ça faisait 3 ans que je tournais autour du pot, je voulais à la base créer un magasin de vélo. Mais dans le coin, je suis pas sûr de moi. Et là, ouais. Je me suis dit, en auto-entrepreneur, faire juste un atelier mécanique dans mon garage, ce que je fais depuis des années où je répare les vélos d'un peu tout le monde dans le coin, je me suis dit, je vais faire un entre-deux. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et du coup, à la base, c'était la cyclerie que je créais. Et je me suis dit, pendant que j'y suis, je vais créer la marque pour les roues en même temps.
Ouais, parce que tu...
Ce qui était plus compliqué, c'est qu'il fallait trouver le nom.
Ouais, ça c'est difficile. Oui, parce que quand on s'était vu il y a quelques... À la fin du confinement, on était allé rouler avec Emilien. Autre personnage sinistre. Je sais pas s'il écoute d'ailleurs le podcast. Je sais pas s'il écoute.
Je crois pas, non.
Ah mince, bon, ça sert à rien de se moquer de lui alors. S'il écoute pas.
Si, tu peux quand même. C'est...
Ouais, mais j'attendrai.
C'est mon souffre. C'est mon souffre-douleur.
Oui. Parce que tu avais quand même. Tu t'étais dit, tiens, je pourrais monter un magasin en t'inspirant justement du magasin de Philippe. En t'inspirant d'autres magasins de même type, un petit peu hybride entre vente mécanique et restauration. Mais c'est vrai que dans le coin, à moins d'être en plein centre de Chartres, c'est difficile.
Ouais, justement, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas mal d'interrogations. Je suis pas persuadé qu'on soit obligé d'être dans une grande ville pour que ça marche. J'ai l'expérience de Cycle des Molières, qui est aux Molières en vallée de Chevreuse, qui est pas forcément dans une grande ville ni le plus proche des grandes villes. Mais je me rappelle qu'il y a beaucoup de clients qui n'hésitaient pas à faire la route pour venir chez lui. Et il y a aussi l'exemple de Philippe qui est à Poitiers. Bon, du coup, là, effectivement, il est dans une grande ville. Mais il y a aussi le côté... La philosophie de sa cyclerie, c'est ça aussi d'ailleurs il y a quelques années qui m'a donné envie qui m'a poussé à aller faire la création d'un magasin. Et je pense qu'il y a beaucoup de communication, puis cet aspect ne pas vendre un vélo absolument, mais vendre un vélo adapté à la personne, plus le côté éthique. Et je suis pas sûr qu'il fallait être dans une grande ville, mais bon. J'ai toujours des interrogations là-dessus, c'est pour ça que je ne me suis toujours pas lancé d'ailleurs.
Oui, c'est difficile. Et puis ça demande un petit peu de financement quand même, malgré tout. Concernant les roues, tu as choisi quoi comme nom ? Comme nom, pardon. Ça a été des grandes discussions tous les deux.
Ah, c'était des grandes discussions jusqu'au jour où un pote comme ça dit « Oh, t'as qu'à appeler ta marque Turbo ». Et je me suis dit « Oh, ça sonne pas mal ». Et en parlant autour de moi, j'avais un peu mon panel pour tester tous les noms auxquels je pensais. À chaque fois, c'était « Ah non, c'est nul. Ah ouais, c'est génial. » Et là, la majorité m'a dit « Ouais, pas mal. C'est pas génial, mais c'est pas mal. » Du coup, je dis « Allez, c'est bon. On arrête là. Ce sera Turbo. »
Voilà. De toute façon, je te l'avais déjà dit, un nom, c'est un nom. Je t'avais donné l'exemple de Nike.
C'est pour ça que je me suis dit, on s'arrête là, quoi.
Ouais. Nike, au début, il trouvait le nom nul, il trouvait le logo nul. Et aujourd'hui, c'est un cas d'école de design et de marque. Alors qu'au début, ils ont choisi ça par dépit. Parce qu'en plus, les autres noms qu'ils avaient trouvés étaient vraiment encore plus nuls. Et toi, quand tu dis un nom vraiment nul, en l'occurrence, Nike, il est pas du tout nul parce que ça fait référence à la déesse grecque de la victoire. Et c'est pas du tout, et en plus on dit pas Nike, on dit Nike, et c'est absolument pas nul. Toi t'avais quoi comme nom vraiment nul?
Comme nom vraiment, et je me rappelle, on en a tellement passé. Alors, comme un peu tout le monde, je pense, à la base, j'ai essayé avec les prénoms de mes enfants de trouver quelque chose, mais
ouais,
j'ai pas j'avais pensé à rompeur. Alors j'ai cherché aussi beaucoup des noms en rapport avec le côté punk, rock'n'roll, tout ça. Mais bah, justement, à chaque fois, on tombait soit dans des noms où il y a une partie des potes qui me disaient « Ouais, c'est génial », et l'autre moitié qui me disait « C'est super nul, ça marchera jamais. »
Allez, un exemple de nom super nul punk. Tu sais que ça, j'en suis friand.
Franchement, je te dis, à part, je me rappelle qu'à un moment, j'étais sur Rompeur. Ouais. Et là, j'ai eu la moitié qui m'a dit « C'est super nul ». Moi, j'adorais.
Ouais. Ouais, je trouve pas ça mal, au final. C'est pas trop mal, quand même.
Ouais, mais maintenant, faut pas me dire ça maintenant.
Ouais, mais de toute façon, peu importe. Maintenant, ça va être turbo. Et puis voilà, si les roues sont bonnes, de toute façon, des roues, c'est fait pour tourner. Si elles roulent bien, elles tourneront vite. On verra pas le nom. On verra juste la traînée du sticker ce rose. Parce que tu vas avoir tes premières roues vraiment montées la semaine prochaine. Tu m'avais dit le sticker va être de quelle couleur déjà?
Ah bah ce sera rose fluo pour tout le monde.
Ah yes, non. Ah mais super, non, j'en veux une paire.
Ah bah oui, toi c'est...
Tu sais que j'aime pourquoi le rose en plus, tu peux témoigner quand même. La guidoline de mon fixie, elle est rose, donc tu sais que j'aime le rose. Tu vas proposer là on va rentrer dans la phase « je fais de la promo pour mes potes », achetez-en, c'est vachement bien. Tu vas proposer quoi comme modèle de roue et quel niveau de sophistication?
Ah bah après c'est tout l'intérêt de la roue artisanale, c'est que je vais proposer ce que le client cherchera ou aura besoin. Ça c'est chaque paire de roues c'est un projet, donc faut en discuter, faut que je vois les attentes, faut voir le budget que le client a, parce que on peut faire à peu près tout, mais bon malheureusement à un moment il faut payer.
Ouais.
Donc on peut, avec un petit budget, on peut déjà faire de très bonnes choses, mais des fois on remplit pas entièrement le cahier des charges. Donc le but justement, c'est, et moi c'est ce que j'adore, pareil, bah avec ton fixie, j'étais en plein dedans, c'est de trouver des solutions, enfin la meilleure solution, et de trouver le meilleur moyen de s'approcher du top, quoi.
Ça dévie davantage.
Ouais. Donc des solutions pour que le mec il soit proche du top aussi, parce que je sens que le vélo va être super, mais moi je vais être lamentable. Un petit peu. Je couperai, hein, évidemment.
Ah, oh, si, j'ai bien des solutions, mais bon.
Tac. Faut qu'on parle de la Chine.
Je pourrais pas faire grand chose pour toi.
Histoire d'être transparent du début à la fin, parce que c'est important. Les jantes viennent de Chine. Est-ce que t'es le seul à commander tes cercles artisanaux en Chine? Ou est-ce que c'est une particularité Bielof? Ou est-ce que toutes les roues artisanales, quelles que soient les marques de tout ce qu'on nous vend en ce moment en France comme roues françaises, est-ce que c'est fabriqué en France ou est-ce que c'est fabriqué en Chine?
Fabriqué en France, non. Mais après, il y a quelques marques qui ont leurs usines non implantées en Chine. Mais la grosse majorité, oui, vient d'Asie. Même les jantes les plus réputées viennent d'Asie. Après, c'est comme dans tout, on trouve de tout, quoi. On peut trouver des cercles bien pourris, comme dans ce qu'on englobe dans le générique, en gros, on trouve des trucs super, quoi. Ouais. Après, le problème, et c'est pour ça que ça m'a pris énormément de temps jusqu'à maintenant, où je vais là recevoir les premières commandes de jantes, c'est qu'il a fallu faire beaucoup de tests, quoi. Et du coup, engager beaucoup d'argent.
Ben oui.
Mais bon, voilà, maintenant j'ai trouvé un bon fournisseur qui peut me faire exactement les jantes que je veux. Et du coup, voilà, maintenant c'est parti avec lui.
Donc tu peux accéder à n'importe quelle requête, ce qui veut dire que, et je t'en avais déjà parlé, si pour cet hiver, pour le fixie, je veux une paire de 90 mm ou des 650B pour le gravel, pour mettre des gros pneus, tu peux accéder à cette requête en fonction du budget. Ouais.
Maintenant, ouais.
Ouais. Bah voilà. Il n'y a plus qu'à alors. Il n'y a plus qu'à attendre que l'argent revienne un tout petit peu en septembre et puis on en reparlera. Et puis voilà.
Bah là, de toute façon, déjà, j'ai le carnet de commandes qui était déjà pas mal rempli. Donc J'ai 11 personnes là, qui attendent impatiemment la réception des gens pour que je leur fasse leur roue. Moi aussi, je suis impatient. Et du coup, ça va vraiment commencer. Ouais, bah, là, à partir de... Elles arrivent entre demain et mardi. J'ai hâte.
Ouais. T'as une idée un petit peu de ce que tu vas ressentir quand tu vas avoir fini ta première paire turbo?
À la première paire turbo avec le logo turbo, je sais pas. On verra. Après, depuis que je monte des roues, je ressens toujours la même chose à chaque fois. Et bon, sauf pour les montages où je suis un peu plus habitué, où je utilise les mêmes composants systématiquement. Mais quand c'est une nouvelle personne qui me fait une demande, c'est toujours un plaisir de discuter, de conseiller, bah de commander tout ce qu'il faut. De monter, j'ai toujours l'impression que chaque paire de roues est différente. Et une fois que j'ai fini mon montage, que c'est parfait, c'est là où vraiment je commence ce que je préfère, c'est-à-dire remettre les roues au cycliste et attendre avec impatience son retour. Alors souvent, j'attends souvent le troisième, quatrième retour, parce que le premier, voilà, il y a toujours le petit côté, c'est nouveau, c'est génial, tout ça. Donc j'attends souvent qu'il ait fait... Moi, souvent, je dis, donne-moi ton avis quand t'auras fait 1000 bornes. Bon, après, s'il fait du cyclocross, ça peut être un peu long d'attendre 2000 km. Mais disons, au bout de 5-6 sorties, déjà, là, c'est intéressant. Et ouais, avoir les retours comme ça, c'est ce qui m'excite le plus.
Tu t'es jamais dit, en livrant une paire de roues, tu t'es jamais dit, bon... Je les livre, je change de numéro de téléphone, je change d'identité et je déménage.
Ah, mais les premières que j'ai faites pour des personnes que je connaissais pas ou peu, ouais. Franchement, j'ai jamais, au début, j'étais absolument pas confiant. Même quand j'ai décidé de créer la marque, j'y allais un peu à reculons. Et après, voilà, tous ceux qui roulent avec des roues que j'ai montées me disaient, mais non, mais c'est regarde, il n'y a jamais eu de soucis, elles sont super et tout. Et j'ai toujours peur de décevoir, du coup c'est un peu toujours bizarre, mais bon justement c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est excitant quoi. Et de se dire normalement il n'y a pas de raison, tout est ok, bon, le montage je sais qu'il est très bon, il n'y a pas de problème, mais voilà, tout le monde a des sensations différentes, tout le monde roule différemment, donc j'ai toujours cette petite appréhension de décevoir, même si pour l'instant c'est pas arrivé, donc pourvu que ça dure. Puis bon, l'avantage aussi de faire des roues artisanales, c'est ça, c'est que si le gars qui roule avec, ça lui convient pas parfaitement, on peut toujours modifier le montage ou s'il s'aperçoit que c'est pas du tout ça, on trouve des solutions. Mais c'est le but, c'est pas de dire voilà, t'as ta paire de roues, je veux plus entendre parler de toi, sauf si tu entres dans la garantie, quoi. C'est de garder la proximité justement avec les cyclistes. Quoi.
Est-ce que quand tu as découvert le chantier à réaliser sur mon Fixie, tu m'as détesté un petit peu?
Ouais.
Ah ouais.
Ouais. Cool. Et je te déteste encore hein, parce que c'est pas fini.
Bah oui,
là,
je sais bien.
En gros, j'ai fait que la première partie, c'est-à-dire étude du projet, se dire mais pourquoi j'ai accepté. Et puis commander
les pièces. Je roulerai plus avec
maintenant,
lui, c'est fini.
Maintenant, il va falloir le monter et voir si la théorie fonctionne.
Parce que pour être précis, c'est pas un fixie que je t'ai donné, c'est un vélo de route.
Ce qui
veut dire que les fixations, enfin les pattes arrière pour la roue arrière, ne sont pas réglables. Ce qui veut dire que c'est une grosse prise de tête pour le choix du braquet. Et assurer une tension correcte de la chaîne, ouais. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de réglage pour tendre la chaîne comme sur un fixie où on va pouvoir régler légèrement l'avancement de la roue dans la patte. Et là, il n'y a rien, forcément, parce qu'il y a le dérailleur qui vient et ses ressorts qui viennent opérer cette tension de la chaîne. Et ouais, oui, vas-y, pardon.
Justement, c'est là où on va voir au montage ce que ça va donner. Donc, pour l'instant, je sais pas trop. Mais après, sinon, il faudra mettre un tendeur de chaîne Pour bon, régler le problème si la tension de chaîne n'est pas bonne.
T'as modifié quoi finalement? Parce que je t'ai filé un vélo de route en Ultegra avec des dérailleurs, etc. Tout ce qui va dessus, t'as tout dépiauté. Il y avait un plateau de 53 dessus, 53-34. T'as laissé quoi sur le pédalier?
Sur le pédalier, j'ai retiré les deux plateaux, évidemment. J'ai gardé le pédalier Ultegra et on va mettre un plateau de 42. Oui, c'est ça. Pour le développement, j'ai choisi 42-16. Au début, tu voulais 46-18. Mais c'est pareil, dans le choix des pièces et pour rester dans un budget contenu, c'était plus intéressant de passer sur un pignon de 16, sachant que pour le plateau, j'étais obligé de rester sur un plateau, j'ai pris un strong light. Et du coup, la largeur du plateau ne correspondait pas au pignon de 18 que tu m'avais donné avec tes roues de fixie. Donc voilà, donc plateau de 42, pignon de 16, et la chaîne qui va bien avec, couleur noire pour aller avec le métalleux que tu es.
Ah, merci.
Ça, c'était ta petite touche perso.
Ah oui, puis avec la guidoline rose, ça va être magnifique. Ça va être très très beau.
Ah ça, il va être beau.
Ah bah tant mieux, j'ai hâte de voir ça. Mais en plus, oui, le pire, c'est que je suis sûr qu'il va être beau parce que slooping comme il est avec la guidoline rose et la SLR carbone très fine, ce qui manque, c'est que les roues ne vont pas être assez hautes en fait. C'est pour ça que cet hiver, je te commanderai une paire de 80 pour rigoler.
Ouais,
mais c'est uniquement pour le look, hein. C'est pas pour les jours devant latéral, hein, c'est sûr, mais c'est uniquement pour avoir un bon style.
C'est important le style. C'est important d'avoir un vélo qui nous plaît.
Bah surtout quand t'avances pas, t'as le temps de le regarder. Donc autant qu'il soit joli. Et c'est pour ça que j'ai des beaux vélos. Parce que justement, j'ai le temps de les regarder en roulant. Comme le paysage d'ailleurs. Concernant le développement, tu m'as dit mardi, c'est un bon ratio. Parce que t'as fait un petit peu de crit quand même. C'est un bon ratio pour la relance. C'était quoi ta théorie là-dessus déjà?
Moi, je suis pas un spécialiste des vélos fixes, mais évidemment, pour ça, merci Internet. Je regardais un peu ce qui se faisait, ce qui était intéressant comme ratio. Et j'avais souvenir aussi d'un copain qui faisait des critériums en fixe et qui roulait en 42-16. Et du coup, c'est pour ça qu'à la base, je voulais te mettre 41-16, sauf que le plateau de 41, je ne l'ai pas trouvé. Et je me suis dit, il a les watts quand même, Richard, il pourra emmener 42-16, ça lui ira très bien.
C'est bien mal me connaître.
Mais si, tu es trop modeste.
Mais non. Tu verras la raclée que j'ai pris hier à la sortie groupe.
Ah ouais,
je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment, ils sont déchaînés. Lundi, on a fait 33,5 de moyenne. J'ai pas fait beaucoup, j'ai fait 80, mais j'avais 4 vent de côté tout le temps. On a fait 33,5 et c'était plat. Hier, on a fait 32,5 et c'était, on est allé à Gambet, tout ça, en Chevreuse. On est revenu par les toboggans de Favrol, vent de côté. Avec les pneus de 32 et le grand plateau de 48, parce que donc je fais de la route avec mon gravel sur lequel je mets des roues avec des pneus de route, je me suis dit, il y a quand même des fois, je regrette mon trek avec le plateau de 53 et les zips de Steve, avec les 303, parce que hier j'ai peiné, en plus ça faisait mon troisième jour consécutif à faire l'idiot, et je t'avoue qu'à la fin, j'étais quand même content d'arriver à la maison, quoi. Mais je voulais faire du rythme pour le 300 de la semaine prochaine. J'ai du rythme, donc maintenant c'est repos, tout va bien. Voilà. La chaîne également, tu m'as parlé de différentes tailles de chaîne. T'as mis laquelle? Parce que c'est différent d'une taille route, c'est ça?
Ouais, non, justement, là c'était pour pouvoir utiliser une chaîne en 3,32. Parce que sur les fixes, en général, normalement, on met des chaînes plus larges. En 1,8, Mais bah là, le problème, c'était pour trouver le plateau. Ou alors, il aurait fallu changer le pédalier. Et bah, du coup, pour que ce soit qu'on reste dans un budget raisonnable, j'ai choisi comme ça de rester en 3,32.
Quand tu dis un budget raisonnable au total, je te dois combien?
104,52 €.
Oh putain. Traître. Traître. Non, mais c'est hyper raisonnable, parce que la même chose en magasin, vraiment en pur magasin, quand même, ça aurait été bien plus onéreux. Et puis si je l'avais fait moi-même, eh ben j'aurais pas de fixie, parce que j'aurais pas trouvé toutes ces solutions techniques, donc c'est parfait. On va conclure le chapitre autopromo. Pour te contacter, pour te poser des questions, pour te donner de l'argent contre des roues, comment on fait?
J'ai une page Facebook et Instagram, donc ouais. Cyclerie Bielov. Et la semaine prochaine, quand j'aurai fait les premiers montages turbo, je vais créer une page spécialement pour les roues, parce que c'est quand même, mine de rien, l'activité que je préfère. La mécanique, c'est génial, mais bon, si à un moment, c'est trop répétitif, hein, c'est souvent des vieux vélos ou des vélos pas terribles, donc bon.
Ouais, comme le canyon de Emilien, ça devait être nul.
Ça, j'en fais tous les jours, des montages comme ça, pas de problème. Mais non, je fais beaucoup de vélos, bah, c'est très bien aussi, hein, il en faut, quoi, des petits vélos Décathlon, des trucs de supermarché. Je fais aussi beaucoup de vélos des années 60-70, et ça, c'est une vraie galère, parce que c'est souvent rouillé. Les pièces, c'est pareil, c'est toujours des standards différents. Les clavettes, par exemple, j'en peux plus. Donc, du coup, c'est bien, mais bon, c'est pas. Et puis, bon, à côté de ça, il y a les roues. Ça, c'est vraiment un truc qui me passionne. Donc, je vais créer une page spécialement pour les roues, justement.
Maintenant, on va ouvrir la page nostalgie. La dernière fois que je suis venu dans ton garage, il y avait un S-Bike monopoutre pour les vieux de la vieille du VTT. Vous savez tous de quoi je parle. Mathieu a un S-Bike au fond du garage. Il en est où, lui?
Ah, le S-Bike, il est fini. En fait, c'est un client qui me ramène régulièrement des vélos entièrement démontés, ou alors des pièces qu'il a récupérées à droite à gauche pour remonter un vélo d'époque. Et ouais, alors moi, c'est une époque que j'ai pas connue, puisque j'ai commencé le vélo il y a 9 ans. Donc, j'ai jamais été très intéressé par ce qui se faisait avant. Maintenant, bah, forcément, à force d'en monter, je connais un peu plus. Mais ouais, avec les photos que j'avais postées et puis les commentaires qu'il y avait eu sur le S-Bike, effectivement, j'ai compris que ça devait être un vélo réputé à l'époque.
Ah ouais. Encore, c'est pas. Là, il est le tube principal, enfin, la barre, la poutre diagonale est un petit peu arrondie, mais je me souviens d'un modèle beaucoup plus rectiligne avec un arrondi beaucoup moins prononcé. Lui, il était vraiment radical, celui-là, à l'époque. Il était vraiment super. Il n'y avait rien à dire. Comme le Klein, je ne sais plus avec qui j'en parlais récemment. Je ne sais plus qui m'en parlait. Tu sais la marque Klein et celui avec les gros tubes et la fourche rigide toute droite énorme, c'était vraiment joli comme vélo, ça. Donc
j'en ai jamais eu chez moi.
Ouais, bah
pas
ça court, les Klein ça court pas l'Eure-et-Loire, hein, ça c'est une certitude. Je vais terminer par une dernière provocation. Parce que tu sais que j'adore t'embêter.
J'aime la provocation.
Vas-y. Quand est-ce qu'on fait un barbecue ensemble? tu l'as pas vu venir, celle-là. On va terminer par ta dernière particularité qui fait que tu ne bois plus d'alcool depuis bien longtemps, tu ne touches plus à aucune drogue depuis bien longtemps.
Depuis 10 ans, exactement.
Et tu réfuteras, si on fait un barbecue ensemble, ça sera du burger végétarien, c'est ça?
Ouais. Mais j'allais dire, oui, le barbecue, moi j'attends l'invitation. Hein.
Bah, Eh ben en août, hein, on met ça en branle et puis voilà. On va. Et tu m'as dit que ta femme faisait de succulents burgers végétariens. Moi, j'attends que ça de goûter.
D'accord. En fait, j'ai compris. C'est toi qui attends l'invitation.
Non. Bah non. Moi, je fournis la structure, l'infrastructure, le logis, les boissons de ton choix. Tu me diras ce que non, tu mais... préfères. Et puis voilà. De toute façon, je bois pas d'alcool non plus. Hein, donc, tu sais, pour ça, c'est pas un problème.
Non, mais t'as raison. Comme je mange pas de viande, tout ça, moi qui vais inviter. Et puis, je vous ferai découvrir. On peut très bien faire un barbecue sans viande et se régaler.
Ouais. Pourquoi t'es devenu végétarien?
Je te sens sceptique sur
non, pas du tout.
Mon affirmation.
Non, pas du tout. Au contraire, tu sais que je suis très ouvert à ces expérimentations, que je ne suis pas végétarien, que j'aime manger de la viande. J'en ai mangé hier soir. S'il y en a, je suis content. J'en mange, ça ne me dérange pas. Et s'il n'y en a pas, eh ben, je suis content aussi. Ce qui fait que je peux rester des semaines sans en manger parce que ce n'est pas un réflexe. Je ne suis pas un viandard à courir après mon steak. Si l'occasion se présente, avec plaisir. Si l'occasion ne se présente pas, avec plaisir aussi. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un problème. Mais toi, par contre, pourquoi tu es devenu végétarien? Je ne me souviens pas de ça.
Tout simplement parce que je suis arrivé à un stade où ça me gêne de manger des animaux. Ça me gêne d'acheter de la viande, enfin de me dire que ouais, il y a des animaux qui ont été élevés dans pas forcément des bonnes conditions, qui ont été tués pareillement, pas forcément dans de bonnes conditions. Et du coup, moi personnellement, ouais, ça me dérange. Donc du coup, du jour au lendemain, un jour, je me suis dit bon, stop, j'ai plus envie.
Ouais.
Et
ça,
voilà.
Je comprends par contre. Ça, le côté souffrance animale, je partage totalement. Et dernièrement, les rares fois où je me suis retrouvé à aller en supermarché, je suis toujours écœuré par la profusion de bouffe, tu vois, les étalages de viande, toute alimentation. Hein. Bon, évidemment, les fruits, ça me dérange pas. Parce que secrètement, en fait, je rêve d'être fruitarien. J'adorerais ça. Pouvoir ne manger que des fruits, j'adorerais ça. Mais j'y arrive pas, j'aime trop les pizzas, donc c'est difficile. Mais le côté étalage de bouffe, je trouve ça écœurant en fait. Donc hier j'en avais envie, donc je suis allé chez le boucher dans le village. Et c'est mesuré, tu vois, il y en a un petit peu, mais pas trop. C'est pas un étalage de c'est pas un étalage de barbarie, et puis là c'est du local, donc ça me convient très bien. Mais sinon, je partage relativement, même totalement, ton opinion, ouais, carrément.
Après, tu sais, pizza et fruits, c'est possible. Alors je te le conseille pas, hein. Mais il paraît qu'il y en a qui mettent de l'ananas sur leur pizza.
Alors ça, j'adore. Les pizzas dites hawaïennes, le sucré salé, j'adore ça. Bon. Et on m'a conseillé également la pizza avec de la pâte faite à base de chou-fleur. Et on m'a également dit, c'est dégueulasse.
Par contre, ouais, tu me dis que tu mets de l'ananas sur ta pizza, ça me dérange.
Pourquoi?
Je sais pas, pour moi c'est illégal.
Mais non, il n'y a pas d'illégalitude. Je viens d'inventer un mot, je sais.
Ouais, mais non, moi, je suis pas d'accord. Bon, c'est comme le débat chocolatine, pain au chocolat.
Ah non,
on mettra
non.
Jamais les gens.
Non. Alors, c'est quoi ta théorie sur le pain au chocolat et la chocolatine?
Déjà, on devrait enfermer tous ceux qui disent chocolatine avec ceux qui mettent de l'ananas sur leur pizza.
Ah ouais. Donc
je pense que.
Bah tu vois, je pensais qu'avec ma couleur de cheveux et ma couleur de la couleur de mes yeux, si Marine Le Pen était élue un jour, ça m'éviterait un voyage en train. Bah en fait non. Je pense que si un jour il y a un végétarien qui vient au pouvoir, je pourrais être parfaitement à rien. Mais mettre de l'ananas sur ma pizza, ça me vaudrait un voyage en Pologne. C'est dommage quand même.
Ah oui, que tu manges de la viande, ça me dérange pas. Par contre, l'ananas sur la pizza.
Ouais.
Ouais, mais on en rediscutera.
Ouais. Mais j'adore ça, hein, vraiment. la semaine dernière, avec Bérangère, on s'est fait une salade pomme, mangue, avocat, mangue ou ananas pêche, je sais plus. Et c'est le genre de mélange que j'adore. Je t'emmènerai également à Chartres dans ma cantine. Ça s'appelle le Molière. Ils ont une petite salade crevette mangue. C'est à tomber par terre.
Ah, mais s'il y a des crevettes, ça va être compliqué pour moi.
Pourquoi tu manges pas de crevettes non plus?
Non.
Ouais.
Ah non. C'est vivant, une crevette.
Bah, oui, mais t'es trop sentimental avec les animaux.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Bon, mon petit Mathieu, merci, même si je t'ai déjà remercié d'avance, en fait. On se voit la semaine prochaine, si tu veux. Demain, tu fais quoi demain? Moi, je fais 1h30 peinard, si ça t'intéresse. Et j'ai un petit circuit au-dessus de Saint-Piat. Alors évidemment, pour ceux qui sont pas du coin, c'est un peu obscur. Mais j'ai une petite boucle de 3 km pour faire du fractionné au-dessus de Saint-Piat. Super cool en chemin. Si ça t'intéresse, on se retrouve dans les alentours. On se cale l'horaire. Moi, je garderai Harry, donc j'aurai une fenêtre très courte pour aller rouler. Mais sinon, on se fait ça, ouais, si ça t'intéresse.
Ouais, pas de problème.
Ok.
Normalement, je devrais pouvoir 1h30, ça devrait aller.
Simple. Ouais.
Oui.
Tu connais le rituel, je vais te laisser pour la minute de solitude. Donc, je vais poser mon micro. Tous ceux qui écoutaient, je vous encourage à suivre sur Instagram et Facebook la cyclerie Bielhof. Les informations utiles seront dans les notes du podcast. Et les notes, pour ceux qui l'ignorent, c'est parce qu'on m'a posé la question la semaine dernière, c'est ce qui est intégré à l'épisode et qui contient toutes les informations qu'on balance dans un épisode. Donc selon l'application que l'on va utiliser, on va avoir un petit bouton ou un petit onglet pour afficher plus de détails. Donc je mettrai tout ça. Merci, à demain, bonne chance, et je te laisse pour ta minute de solitude. Grosse bise mec, à demain.
Salut. L'exercice de minute de solitude. J'ai l'impression d'arriver devant mes chefs à SNCF sans avoir bossé, en ayant fait du vélo à la place. Ce qui n'arrive jamais, hein, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Tout simplement, prenez vos vélos, amusez-vous, kiffez la vie, parce que malgré tout ce qu'on entend, c'est quand même génial. Et puis, voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour les roues ou des montages de vélos. Voilà. À bientôt tout le monde. Salut.